Écho des colonies, Jocelyne Moussaou.
Bienvenue à ce magazine économique. L'équipe est là et Béry Franklin-Lichaka nous fournit les nouvelles.
Une rencontre a réuni les sociétés pétrolières qui travaillent dans le Bas-Congo et le maire de la ville de Goma. Nous en saurons un peu plus avec Guy Roger Nyampala. Le gouvernement congolais a décidé aussi de surseoir la nouvelle tarification de l'énergie que représentent ces recettes de basse tension à ce que rapporte l'exploitation par la RDC du courant électrique. C'est le dossier que nous amène Augustin Ngala dans la seconde partie de cette émission.
Et dans la seconde partie de l'émission, nous recevons Théodore Mougalou, président national de la Fédération nationale des agriculteurs, qui nous parlera de la vision de sa structure. Les infos économiques du pays. Le gouvernement a approuvé au cours de son dernier conseil des ministres les statuts des entreprises publiques à transformer. Berry.
Il s'agit des entreprises à transformer en établissements publics et en services publics. 20 entreprises vont être transformées en établissements publics, parmi lesquelles l'OCC, la RDF, le GFREM, la RTNC. Et pour ce qui est des entreprises à transformer en services publics, dont la DGRAD et le Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances et la Direction nationale des et la dette publique, la DPI, selon le COPIREF, à ce stade, le conseil d'administration de toutes ces entreprises doivent adapter ces statuts types tels qu'approuvés par le conseil des ministres à leurs établissements.
La présidence de la République, la primature, le ministère des Mines et la Banque centrale du Congo sont en visite au Katanga.
L'objectif de leur mission est de s'enquérir de la situation des recettes tirées du secteur minier du Katanga. Les membres de la délégation mixte ont voulu se rassurer que les opérations dans ce secteur se déroulent normalement et qu'elle génère des recettes susceptibles de soutenir la monnaie nationale, a précisé le président de cette délégation mixte qui s'est entretenue avec le vice-gouverneur du Katanga hier lundi. Le pays a besoin de recettes tirées de ses ressources pour sa reconstruction, a-t-il ajouté.
Il y a eu éboulement hier dans une mine de diamants à Kamonia.
Nous sommes à plus de 100 km de Kikapa au Kasaï occidental et le bilan fait état de 2 morts et d'un blessé grave. Selon l'ONG locale Lunapedo qui livre l'information, il s'agit des creuseurs à la recherche de diamants artisanaux dans une vieille mine de diamants abandonnée appelée Chimoubissou. Voilà, Chimoubissou. La terre a englouti les deux qui sont morts sur place et un autre s'en est tiré avec des blessures.
Une commission mixte transporteur et gouvernement provincial a été mise sur pied à Bukavu.
C'est pour étudier la question de la multiplicité des taxes dont se plaignent les transporteurs. Et c'est un jour après la grande des transporteurs taxi-moto, bus et minibus de transport en commun hier lundi. Selon un représentant des transporteurs à cette commission, ce mardi, 10 membres désignés ont examiné la nature des taxes, celles qui seraient légales et d'autres considérées comme illégales. Ils ont convenu d'en faire une large vulgarisation auprès des transporteurs. Rappelons aussi que les transporteurs ont dénoncé le fait que, par exemple, un camion faisant la route Ombo-Bukavu pour le ravitailler en vivre vous pouvez arriver à payer 76 000 francs congolais pour un trajet sans retour, ajoute la même source.
La nouvelle économique au bout du fil.
Nous sommes en ligne avec Guy Roger Nyampala du Bas-Congo. Guy Roger, vous nous parlez de la rencontre qui a regroupé pendant 3 jours le maire de Boma, les responsables du comité des concertations et les responsables des entreprises pétrolières basées à Moanda. Pour commencer, Guy Roger, quel était l'objet de cette rencontre?
Jocelyne, la réunion a eu lieu dans les territoires de Moanda, à plus de 200 km à l'ouest de Matadi. Alors, l'objet de la réunion était de trouver des pistes de solutions sur les différends qui opposent certaines communautés autochtones aux entreprises pétrolières présentes à Moanda. Brièvement, ces communautés, notamment les Tioka et d'autres qui sont propriétaires des villages, exigent des avantages et autres allocations auprès de ces entreprises pétrolières. Et récemment, on a eu à déplorer des enlèvements des expatriés, la saisie des véhicules de la société Paranco dans certains sites par des habitants mécontents. Il y a souvent des réclamations et des soulèvements liés justement aux activités de ces entreprises pétrolières sur place. Voilà, Justine, pourquoi les autorités politico-administratives de cette conseil du Bas-Congo ont voulu réunir les concernés pour dissiper tout malentendu et corriger évidemment là où ça ne marche pas.
Et quelles sont les résolutions de cette réunion?
Effectivement, Jocelyne, il y a eu plusieurs résolutions, mais la plus importante, c'est la prochaine table ronde qui doit se tenir dans les tout prochains jours dans la cité côtière de Mwanda. C'est une décision prise par les participants à cette rencontre, et la dite table ronde réunira autour d'une même table les représentants des communautés autochtones, les membres de la société civile, les responsables de ces entreprises pétrolières, ainsi que les autorités politico-administratives et les élus locaux.
Merci beaucoup, Guy Roger Niampala, pour cette nouvelle. Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka. Berry, la Banque africaine de développement, reprend ses opérations en Somalie.
Et cela après plusieurs décennies d'interruption. La Somalie a repris ses relations avec la BAD avec la signature d'un accord de don de 2 millions de dollars américains destinés à une assistance financière et technique pour la gestion des finances publiques. L'appui au gouvernement fédéral de transition de Somalie provient de la facilité en faveur des États fragiles administrés par l'unité État fragile de la banque.
Merci beaucoup, Béry Franklin Luchaka, pour cette information à l'unique en international. Voici la deuxième partie de Écho d'économie.
Écho d'économie, le dossier.
Le gouvernement congolais a décidé de surseoir la nouvelle tarification de l'énergie électrique depuis la semaine dernière. Vous le savez, certains abonnés de basse tension ont vu leur facture multipliée par 3 ou même par 4. Que représentent ces recettes de basse tension à ce que rapporte l'exportation par la RDC du courant électrique? C'est les dossiers que nous emmène Augustin Ingala. Augustin, dites-nous d'abord, quelles sont les motivations qui ont poussé le gouvernement à surseoir cette tarification?
Disons tout de suite, Jocelyne, que rien n'infiltré du côté du gouvernement. Mais nous savons que plusieurs plaintes ont été enregistrées de partout en République démocratique du Congo, de Lubumbashi à Matadi, en passant par les Bandundu. La population a totalement désapprouvé cette tarification qui revoyait les prix d'une hausse du courant électrique allant entre 50 et 250%. Malgré les explications des cadres de la SNEL, la population a catégoriquement refusé de payer la facture du courant faute de prévoir d'achat conséquent.
Et vous parlez du pouvoir d'achat qui peut être valable pour notre pays, mais est-ce que réellement les recettes de la SNEL sont focalisées essentiellement sur le recouvrement des factures?
Disons tout de suite que non. Tout simplement parce que le recouvrement de la consommation locale de l'électricité représente 30%, à en croire au cadre de la SNEL qui nous a livré cette information. 0 à 5% des recouvrements représentent la consommation domestique et 25 à 30% représentent la consommation industrielle. Et 70% de la production du courant électrique est exportée dans les pays voisins.
Et puisque vous évoquez l'exportation et vous dites que 70% de la production de la SNEL est exportée, comment se présente la facturation dans le pays, dans les pays limitrophes?
Dans l'ensemble, nous dirons qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne dans la facturation du courant électrique dans les pays limitrophes. La facture que les Congo-Brazza payent chaque mois à la RDC, par exemple, est d'environ 6 millions de dollars américains. L'abonné domestique paye par forfait une somme équivalente à 40 dollars américains. Mais cette tarification n'est pas réduite à la hausse depuis 4 ans. En Zambie, la SNEL intervient pour faire fonctionner les entreprises minières dans ces pays. Les courants domestiques est produit localement et la facturation a été réduite à la hausse depuis 2 mois maintenant. À noter que la facturation du courant en Zambie est prépayée et actuellement l'abonné domestique paye à peu près 40 dollars.
Et c'est juste des exemples des pays limitrophes, mais est-ce que les Congolais payent réellement cher le courant par rapport aux exemples que vous venez de nous donner?
Ce n'est pas très évident de comparer parce que la République démocratique du Congo produit les courants. Les autres pays achètent les courants chez nous. De ce point de vue, nous pouvons affirmer que c'est pratiquement normal que nous payons moins les courants que nous produisions nous-mêmes. Mais par rapport à la Zambie, par exemple, qui produit les courants pour la consommation domestique, il y a lieu de dire que les Congolais payent moins cher et cela est consécutif au pouvoir d'achat qui s'amenuise de plus en plus. C'est d'ailleurs cet aspect qui est revenu dans la réclamation des abonnés à la SNEL.
Une question avant peut-être de nous séparer, Augustin. Est-ce que la décision du gouvernement est limitée ou pas?
À en croire le compte rendu du Conseil des ministres, c'est une décision illimitée. Et d'ailleurs, les ministres de l'économie et de l'énergie sont chargés de prendre des mesures consécutives à cette décision gouvernementale.
Merci beaucoup, Augustin Ingala, pour ce dossier. Bonne soirée.
Merci et bonne soirée aussi.
L'entretien de ce soir.
L'agriculture, réservoir de croissance économique et de création d'emplois pour sortir de la précarité et combattre les changements climatiques, c'est le thème de la conférence animée au Katanga par l'ONG Fédération Nationale des Agriculteurs, FENAGRI en sigle. À l'issue de cette conférence, le président national de cette association a proposé sa vision. Théodore Mougalo est au micro de Colin Djuma Moussampo. C'est l'entretien de ce soir.
Monsieur l'ambassadeur Théodore Mougalo, pouvons-nous savoir à quoi consiste votre conférence aujourd'hui?
Ma conférence constate que les intermédiaires qui existaient entre, à l'époque coloniale, entre les villages producteurs et les villes consommatrices, c'était des Indo-Pakistanais, c'était des Portugais, des Juifs, des Grecs, qui faisaient le transport de produits immobiliers des villages vers les villes. Cette classe n'existe plus, et ce sont les trafiquants qui se sont emparés, qui ont pris les paysans en otage, et au point que le paysan, aujourd'hui, ne sait plus évacuer ses produits vers la ville. Il a été abandonné, il a été pillé à l'époque de l'esclavage, il a été traité comme bête de somme à l'époque de la colonisation, et abandonné depuis l'indépendance. L'économie paysanne n'est plus intégrée dans les circuits économiques mondiales, mondiaux, et c'est ainsi que nous voulons l'union faisant la force, regrouper les paysans des villages en association des villages d'entreprises, utilisant en commun un compte bancaire.
Et vous savez que le village africain, où sont un peu parsemés.
Oui.
Comment arrivez-vous à réunir tous ces villageois au sein d'un tel groupe?
Oui, nous avons 750 groupements coutumiers. Nous avons 62 500 villages et nous voulons atteindre l'objectif en partant du projet pilote du Katanga. Nous avons ciblé le nord Katanga qui est vivrier pour approvisionner le sud Katanga. Nous voulons regrouper les paysans en 6000 AVE pour toute la RDC, de manière à ce que le paysan qui habite dans un rayon de 400 km carrés puisse avoir un guichet bancaire. C'est-à-dire, le guichet bancaire pourrait être implanté au centre de ces 400 km carrés et on pourra tenir les assemblées générales, quel que soit le point où vous habitez. Nous allons quadriller le Nord Katanga en surface de 400 km carrés. Et ainsi, dans le centre, nous implantons une salle polyvalente qui va servir de grenier, qui va servir de cantine, qui va servir de salle de machine, qui va servir de centre de formation au machinisme agricole. Et alors, le point n'est besoin de déplacer le paysan de là où il habite.
Vous avez parlé, je trouve qu'il va se poser un problème à la fin. Tu as dit que les villageois qui reçoivent les crédits bancaires, mais qui n'ont pas les semences. Où est-ce qu'ils vont trouver les semences et les intrants pour produire de grands rendements?
Effectivement, nous ne donnons pas aux paysans les crédits en numéraire. Non. Nous donnons aux paysans la ligne de crédit pour accéder aux semences. Parce que le problème, c'est celui-là. Le paysan a besoin de semences pour produire les vivres, afin de vendre les vivres et obtenir l'argent. La ligne de crédit lui permet d'acheter les semences sans donner l'argent. Il ouvre une des garanties bancaires aux vendeurs de semences et il est crédible. Et la FENAGRI peut, n'est-ce pas, consoler ces paysans avec le concours des sponsors, parce que la FENAGRI elle-même doit avoir un soutien financier quelque part. Nous avons déjà des sponsors et nous négocions avec la société minière pour que le budget social des sociétés minières puisse nous être alloué, puisse subventionner l'agriculture. Parce que vous savez, nos pays, nos villages ont été abandonnés depuis l'indépendance. Et les villages n'ont jamais participé au partage, n'est-ce pas, du patrimoine national.
Monsieur l'ambassadeur Théodore Mogali, je pense.
Merci Colin, merci aussi à l'invité. Écho d'économie prend fin. Retrouvez-nous sur www.radiocapi.net. Merci et bonne soirée.